Joseph Conrad, la brute. Pour échapper à la pluie qui balayait la rue, j'entrais au bar des Trois Corbeaux et j'échangeais avec Miss Blank, assise à son comptoir, un regard et un sourire. Échange d'une parfaite correction. Je frémis en songeant que Miss Blank, si elle est encore de ce monde, doit avoir dépassé la soixantaine. Comme le temps passe. En me voyant tourner un regard interrogateur vers la cloison de vitres et de bois vernis, Miss Blank eut l'amabilité de me dire, d'un ton encourageant, « Il n'y a que M. Jermyn et M. Stoner dans la salle, avec un gentleman que je n'ai jamais vu. » Je me dirigeais vers la porte. Derrière la cloison, épaisse comme une allumette, une voix parlait si haut que ses dernières paroles me parvinrent nettement dans leur atrocité. Cet animal de Wilmot lui a joliment cassé la tête et c'est bien fait pour elle. L'inhumanité d'un tel sentiment, qui prétendait pourtant n'avoir rien d'impie ou d'incongru, ne suffit pas à contenir le léger bâillement que Miss Blank dissimulait derrière sa main. Et elle continua de regarder fixement les carreaux des fenêtres, ruisselant de pluie. En ouvrant la porte, j'entendis la voix poursuivre avec la même violence cruelle. J'ai été bien heureux d'apprendre qu'elle avait fini par se faire démolir. J'ai eu du regret pour le pauvre Wilmot pourtant. Nous avions été copains dans le temps. Vous comprenez bien que cette affaire-là l'a coulé. Un cas lumineux s'il en fut. Pas mèche de s'en tirer. Pas mèche. La voix appartenait au gentleman que Miss Blank n'avait jamais vu. Il écartait ses longues jambes sur le tapis du foyer. Penché en avant, Jermyn tenait son mouchoir étalé devant la grille. Il lança par-dessus son épaule un regard douloureux et je lui fis un signe de tête en me glissant derrière une des petites tables de bois. De l'autre côté du feu, M. Stoner, imposant et calme, encastrait sa masse énorme dans un vaste fauteuil Windsor. Il n'y avait rien de petit chez cet homme-là, que des favoris courts, très blancs. Près de lui, des mètres et des mètres de draps super fins, taillés en manteau, gisaient sur une chaise. Sans doute venait-il de chercher quelque navire en mer, car un second siège disparaissait sous un imperméable noir, ample comme un poêle mortuaire, et fait d'une triple épaisseur de toile cirée, piquée et repiquée. Un sac à main de taille ordinaire faisait à ses pieds l'effet d'un jouet d'enfant. Je ne lui fis aucun signe. C'était un homme trop important pour de telles familiarités. Maître pilote, diplômé de la Trinité, il ne condescendait à s'aventurer sur l'eau que pendant les mois d'été. Il avait eu bien souvent la charge de yachts royaux à l'entrée ou à la sortie de Port Victoria. Au surplus, qui songerait à faire des signes de tête à un monument? Et c'était bien un monument. Il ne parlait ni ne bougeait. Il se contentait de rester assis, immobile, presque plus grand que nature, tenant tout droit sa belle vieille tête. C'était un spectacle magnifique. La présence de M. Stoner réduisait le pauvre Jermyn à l'état d'un petit bout d'homme et donnait à l'étranger, debout devant le feu, un air d'absurde jeunesse. Vêtu d'un complet de drap, ce dernier devait avoir une trentaine d'années ou un peu davantage. Il était certainement de ces individus que n'aimait pas le son de leur propre voix, car sans s'interrompre un instant, il m'invita, pour ainsi dire, d'un coup d'œil amical, à me mêler à la conversation. « Oui, j'ai été heureux, » répétait-il avec emphase, « et si ça vous étonne, c'est que vous n'avez pas connu cette Rosse-là comme moi. » Ah, comme on pouvait se souvenir d'elle! Elle n'a pas eu ma peau, c'est vrai, mais elle a bien fait tout ce qu'elle a pu pour m'enlever tout mon courage. Et elle a bien failli faire entrer dans un asile d'aliénés le plus chic type du monde. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Pas un muscle ne tressaillit dans l'énorme visage de M. Stoner. Monumental! L'homme me regarda droit dans les yeux. Ça me rendait malade de penser à cette garce qui s'en allait de par le monde en massacrant des gens. Jermyn approcha encore un peu son mouchoir de la grille et poussa un gémissement. C'était une habitude chez lui. Je l'ai vue une fois, intervint-il avec une indifférence larmoyante. Elle avait un rouf. L'étranger se retourna pour abaisser sur lui un regard de surprise. Elle en avait trois, corrigea-t-il avec autorité. Mais Jermyn n'entendait pas se laisser contredire. Une grande, vilaine bâtisse blanche, répéta-t-il avec une morne obstination, qui se dressait vers le ciel et se voyait à des milles de distance. « C'est vrai, » acquiesça vivement l'autre, « c'était l'idée du vieux Colchester. » Il avait pourtant assez de la vie qu'elle menait et déclarait à chaque instant qu'il voulait la lâcher. C'était trop de faveur pour lui. Il ne demandait qu'à s'en laver les mains dès qu'il pourrait en trouver une autre. Et ainsi de suite. Je crois bien qu'il l'aurait lâchée, en effet. Seulement, le croiriez-vous, c'est sa femme qui ne voulait rien savoir. C'est épatant, hein? On ne sait jamais comment les femmes prendront les choses. Et avec ses moustaches et ses gros sourcils, Mrs. Colchester faisait bien l'une des plus décidées qu'on puisse voir. Elle se promenait en robe de soie brune, avec un gros câble d'or qui lui brinquevalait sur la poitrine. J'aurais voulu que vous l'entendissiez glapir « idiotie » ou « baliverne » tout ça. Elle avait conscience de sa petite fortune. Les Colchester n'avaient pas d'enfants et ne s'étaient jamais fixés nulle part. Lorsqu'ils étaient en Angleterre, elle allait s'installer dans un hôtel médiocre ou une pension de famille. Elle était bien contente, en rentrant à bord, de retrouver ses aises. Elle savait bien qu'elle n'aurait pas eu à gagner au change. D'ailleurs, en dépit de ses qualités, Colchester n'était pas de première jeunesse, et peut-être, songeait-elle, qu'il aurait eu peine, malgré ses dires, à mettre la main sur une occasion nouvelle. En tout cas, pour quelque raison que ce fût, la bonne dame ne ménageait ni ses balivernes, ni ses idioties. Un jour, j'entendis le jeune Mr. Apps lui-même lui confier en grand mystère « Je vous assure, Mrs. Colchester, que je commence à me tourmenter fort du renom qu'elle s'attire. »« Oh !» répondit-elle avec son petit rire gras et enroué, « où irait-on si on faisait attention à toutes les inepties qu'on colporte ?» Et elle montrait du coup toutes ses vilaines dents fausses en ajoutant « Il en faudrait plus que cela pour me faire perdre confiance, je vous l'affirme. » À ce moment, sans un mouvement du visage, M. Stoner poussa un éclat de rire bref et sardonique. L'effet de ce rire était saisissant, mais je ne voyais rien de drôle dans l'histoire. Je regardais les trois hommes. L'étranger avait un vilain sourire. Mr. Apps serra les deux mains de Mrs. Colchester, tant il était heureux d'entendre une bonne parole sur le compte de leur favorite. Tous les Apps, jeunes et vieux, vous savez, étaient entichés de cette abominable et dangereuse « Mais pardon, » interrompis-je avec exaspération, car il semblait s'adresser exclusivement à moi. « De qui parlez-vous donc ?»« Je parle de la famille Apps, » répondit-il avec courtoisie. Je faillis laisser échapper un gros juron. Mais à ce moment précis, l'honorable Miss Blank passa la tête par la porte en disant que la voiture était arrivée et qu'il était temps pour M. Stoner de partir s'il voulait attraper le train de 11h03. Sur quoi le maître pilote, se dressant dans toute son énormité, se mit à lutter avec des soulèvements terrifiants pour entrer dans son manteau. L'étranger et moi courûmes instinctivement à son aide. À peine eûmes-nous posé les mains sur lui qu'il se calma. Il nous fallut lever les bras très haut, avec de gros efforts. On aurait dit que nous harnachions un éléphant apprivoisé. Il lança un « Merci, messieurs », et se pencha pour passer sous la porte en grande hâte. Nous échangeâmes un sourire de sympathie. « Je me demande comment il fait pour se hisser sur une échelle, » fit l'homme au complet de drap. Et le pauvre German, qui était pilote de la mer du Nord, sans aucun statut ou diplôme officiel, pilote par faveur, poussa un gémissement. « Il se fait 800 livres par an. « Vous êtes marin ? » demandai-je à l'étranger qui avait repris sa place devant le feu. « Je l'ai été jusqu'à mon mariage, il y a 2 ans d'ici, » répondit ce personnage communicatif. « C'est même sur le bateau dont nous parlions quand vous êtes entré que j'ai embarqué pour la première fois. »« Quel bateau ?» demandai-je d'un ton intrigué. « Je ne vous ai jamais entendu parler d'un bateau. »« Je viens de vous dire son nom, mon cher monsieur, » répondit-il, « la famille Apps. » »« Vous avez certainement entendu parler de la grande maison Apps et fils, armateur. » Il possédait une assez belle flotte. Il y avait la Lucy Apps, le Harold Apps et des Anne, John, Malcolm, Clara, Juliet, toute une série d'Apps. Chacun des frères, sœurs, tantes, cousines, femmes, jusqu'à la grand-mère de la maison, avait donné son nom à l'un de leurs bateaux. C'était de bons bâtiments, à vrai dire, solidement construits à l'ancienne mode, pour porter du fret et vivre longtemps. Ils ne comportaient pas toutes vos machines modernes qui épargnent la peine des hommes, mais ils embarquaient de gros équipages, avec de belles provisions de bœuf salé et de biscuits, et s'en allaient gaiement pour revenir de même. Le triste Djamin lança un murmure d'approbation qui sonna comme un gémissement douloureux. « Voilà de vrais bateaux !» Il fit remarquer d'un ton lamentable que ce n'était pas à des machines qu'on pouvait dire « Allons les enfants, de l'ensemble !» Les machines, ça ne grimpait pas dans la mâture par une sale nuit avec des bas-fonds sous le vent. « Non !» approuva l'étranger en clignant de l'œil à mon intention. Les Apps n'avaient pas confiance non plus dans toutes ces inventions-là, apparemment. Ils traitaient bien les hommes, mieux qu'on ne les traite de nos jours, et ils étaient extraordinairement fiers de leurs bateaux. Il ne leur arrivait jamais rien. Ce dernier-là, la famille Apps, devait être comme les autres, mais plus fort encore, plus solide, plus grand et plus confortable. Je crois qu'ils rêvaient de le voir durer pour l'éternité. Ils le firent construire en matériaux variés, fer, bois de teck et green heart, et ses proportions avaient quelque chose de fabuleux. Si jamais construction de navire fut entreprise dans un esprit d'orgueil, c'est bien celle-là. On prit en tout ce qu'il y avait de meilleur. C'est le premier capitaine de leur flotte qui devait le commander, et on lui réserva un appartement vaste comme une maison, sous une énorme dunette qui allait presque jusqu'au grand mât. Pas étonnant que Mrs. Colchester ne voulut pas laisser son vieux ni lâcher ce sacré bateau. Elle n'avait jamais connu pareil domicile depuis son mariage, et c'était une femme de poigne, vous savez. Les histoires qu'on a menées autour de la construction de ce navire. On allait renforcer ce côté-ci et épaissir celui-là, et ne ferait-on pas bien de changer cette cloison pour quelque chose de plus solide? Les constructeurs avaient fini par se laisser prendre au jeu, et faisaient, au vu de tous, mais sans que personne s'en avisât, le bâtiment le plus lourd et le plus mastoc qu'on ait jamais vu. Il était enregistré pour 2000 tonnes ou un peu plus, pas moins en tout cas. Et voyez l'histoire. En le jaugeant, on trouva 1999 tonnes et une fraction. Consternation générale. On dit que de chagrin, le vieux Mr. Apps s'alita et mourut. À vrai dire, le vieux gentleman, retiré des affaires depuis un quart de siècle, avait au moins 96 ans, de sorte que sa mort n'avait somme toute pas de quoi surprendre. Mais M. Lucien Apps resta convaincu que sans cette déception, son père aurait vécu jusqu'à 100 ans. On peut donc l'inscrire en tête de liste. La seconde victime fut un pauvre diable de charpentier que cette brute accrocha et écrasa en glissant sur les couettes. On a parlé de lancement, mais à en croire les gens qui ont vu la rosse filer à tort et à travers avec des cris et des gémissements, on aurait plutôt cru voir lâcher un démon sur la rivière. Elle fit claquer ses amarres comme des fils d'araignée et se précipita avec fureur sur les remorqueurs qui l'attendaient. Avant qu'on ait pu savoir de quoi il retournait, la brute en avait envoyé un au fond et arrangé si bien l'autre qu'il était bon pour 3 mois de réparation. Un de ses câbles se rompit, et tout à coup, sans qu'on pût dire comment, elle fit tête sur sa seconde ancre avec une docilité d'agneau. Voilà comment elle était. On ne pouvait jamais deviner ce qu'elle allait faire. Il y a des bateaux difficiles à manœuvrer, mais en général, on peut compter sur une certaine logique de leur part. Avec cette brute-là, il n'y avait en aucun cas à savoir comment elle allait réagir. C'était une sale bête. Ou peut-être était-elle folle, tout simplement. Il lança cette idée avec un tel accent de conviction que je ne pus réprimer un sourire. Il cessa de se mordre les lèvres pour m'apostropher. Et pourquoi, dites donc, pourquoi n'y aurait-il pas eu, dans ses lignes, dans sa structure, quelque chose qui correspondit à... Qu'est-ce que la folie? Un détail minime, détraqué dans le cerveau. Pourquoi n'y aurait-il pas un bateau fou, fou dans sa nature de bateau, s'entend, assez fou pour qu'en aucun cas, on peut être sûr qu'il dût se comporter comme le ferait un bateau raisonnable. Il y a des bateaux trop sensibles à la barre, et d'aucuns qu'il faut tenir à l'œil pour virer. Avec d'autres, il faut se méfier dès qu'on rencontre un grain. Et certains aussi font une tempête du moindre coup de chien. Mais on sait qu'il en sera toujours de même avec chaque bateau, et on rapporte la chose à sa nature de bateau, comme on tient compte des traits de caractère d'un homme à qui l'on a affaire. Seulement, avec cette brute-là, c'était impossible. Elle était incompréhensible. Si elle n'était pas folle, c'était bien la brute la plus méchante, la plus sournoise, la plus sauvage qui ait jamais été sur la mer. Je l'ai vue se comporter magnifiquement pendant 2 jours, pour venir dans le vent 2 fois de suite l'après-midi du 3e. La première fois, elle lança le timonier en plein par-dessus la barre, puis, comme elle n'avait pas réussi à l'assommer tout à fait, elle recommença le coup 3 heures plus tard. Submergée de l'avant à l'arrière, elle fit sauter tout ce que nous avions installé de toile, sema la panique chez tout l'équipage et épouvanta jusqu'à Mrs. Colchester dans son bel appartement de l'arrière dont elle était si fière. Quand on fit l'appel, il manquait un homme, balayé par-dessus bord, bien entendu. Ce qui m'étonne, c'est que nous n'ayons pas été plus nombreux à filer avec lui. Et c'était toujours des histoires de ce genre. Toujours. J'ai entendu un vieux second dire un jour au capitaine Colchester qu'il en était arrivé à ne plus oser ouvrir la bouche pour donner un ordre. Et la rosse semait la terreur dans les ports aussi bien que sur mer. On ne savait jamais ce qui la ferait tenir tranquille. Sans la moindre provocation, elle se mettait à claquer comme fétue de paille, cordes, câbles et haussières de métal. Elle était lourde, mal fichue, gauche, mais tout ça ne suffit pas à expliquer sa puissance maléfique, savez-vous? Quand je pense à elle, je ne puis m'empêcher de songer à ces fous incurables qui s'échappent de temps à autre. Il fixait sur moi un regard interrogateur. Mais je n'allais pas admettre, vous le pensez bien, qu'un bateau pût être fou. Elle était devenue la terreur des ports où on la connaissait, reprit-il. Elle vous enlevait, en se jouant, 20 pieds de revêtement de quai en pierre massive, ou fauchait le bout d'une jetée de bois. Elle devait avoir perdu 1000 de chaînes et 100 000 de tonnes d'encre. Quand elle abordait un pauvre navire inoffensif, c'était une histoire de tous les diables pour la ramener en arrière. Et elle ne se faisait jamais abîmer. Elle s'en tirait avec quelques écorchures, à peine. On avait voulu la faire forte. Ah, elle l'était forte. Assez pour enfoncer toutes les banquises du pôle. Et comme elle avait commencé, elle continua. Du jour de son lancement, elle ne laissa pas passer une année sans massacrer quelqu'un. Je crois que les armateurs finissaient par en être là. Mais c'étaient des gens obstinés que ces apps, et ils n'auraient jamais voulu admettre qu'il pût y avoir quelque chose de mauvais dans leur famille apps. Ils ne consentirent même pas à changer son nom. « Idiotie, comme disait Mrs. Colchester. Au moins aurait-il dû l'enfermer, pour le reste de ses jours, dans un bassin d'échouage, quelque part sur la rivière, et ne jamais lui laisser sentir l'eau salée. Je vous affirme, mon cher monsieur, qu'elle tuait quelqu'un à chacun de ses voyages. C'était chose bien connue. Elle s'était fait une réputation universelle. J'exprimai ma surprise de ce qu'un navire aussi fâcheusement famé pût trouver des équipages. » Ah, voilà qui montre que vous ne connaissez pas les marins, mon cher monsieur. Laissez-moi vous donner un exemple. Un jour, au bassin, à Londres, je me baladais sur le gaillard d'avant, quand je vis s'avancer 2 braves loups de mer, l'un d'un certain âge, homme manifestement sérieux et capable, l'autre jeune gars bien découplé. Lisant sur le bossoir le nom du navire, ils s'arrêtèrent pour le regarder. Alors, le vieux, la famille Apps, c'est cette vache de bateau, sauf votre respect, qui tue un homme à chacun de ses voyages. Eh bien, mon vieux Jack, je ne m'engagerai pas dessus pour un empire, tu peux me croire. Et l'autre, si cette salope-là était à moi, je la ferais échouer dans la vase et je lui ficherais le feu, nom de nom. Alors le premier reprend, qu'est-ce que ça peut bien leur fiche? Les hommes, ça ne coûte pas cher, Dieu le sait. Et le jeune crache dans l'eau de notre côté. Ils ne m'auront pas, quand même ils m'offriraient double paye. Ils traînèrent quelque temps avant de remonter le long du quai, et 1/2 heure plus tard, je les voyais tous deux sur le pont, à la recherche du second, et apparemment désireux de se faire engager. Ils le furent, d'ailleurs. « Comment expliquez-vous cela ? » demandai-je. « Comment ? » riposta-t-il. « Insouciance. Désir de se vanter le soir devant les copains. Nous venons de nous engager sur la femme Yaps. Au diable, elle ne nous fait pas peur. » Simple perversité de marin. Un peu de tout cela, sans doute. Je leur ai posé la question au cours du voyage. Le vieux m'a répondu « Bah, on ne meurt qu'une fois !» Et l'autre me déclara d'un ton moqueur qu'il voulait voir comment elle allait s'y prendre ce coup-ci. Mais je vais vous le dire, moi, cette brute exerçait une sorte de fascination. German, qui paraissait avoir connu tous les bateaux du monde, intervint d'un ton maussade. Je l'ai vu un jour, de cette fenêtre même, remonter la rivière à la remorque. Une grande, vilaine carcasse noire qui s'avançait comme un énorme corbillard. Il y avait quelque chose de sinistre dans son allure, hein ? Fit l'homme en costume de drap en abaissant sur German un regard bienveillant. Je l'ai toujours eu en horreur. Elle m'avait donné une sale secousse quand je n'avais que 14 ans, au jour, à l'heure même où je venais de monter à bord. Mon père était venu assister à mon départ et devait nous accompagner jusqu'à Gravesend. J'étais le second de ses fils qui prenait la mer. Mon grand frère était déjà officier. Embarqué vers 11 heures du matin, nous trouvâmes notre bateau prêt à sortir du bassin par l'arrière. Nous n'avions pas avancé de 3 longueurs que, sur une petite secousse donnée par le remorqueur pour la tirer dans l'écluse, la rosse fit une de ses folles embardées et pesa si bien sur son amarre, une haussière neuve de 6 pouces pourtant, que les hommes de l'avant ne purent pas mollir à temps et qu'elle claqua. Je vis le bout brisé voler très haut en l'air et une seconde plus tard, la brute donnait de la hanche contre le musoir avec un choc qui fit tituber tout le monde sur le pont. Elle ne se fit pas le moindre mal, pas de danger. Mais un des mousses que le second avait envoyé faire quelque chose dans la misaine tomba sur la dunette, plof, juste devant moi. Nous avions échangé les sourires quelques minutes plus tôt. Il ne devait pas se tenir assez fort, n'ayant aucune raison d'attendre pareille secousse. J'entendis le cri d'horreur, « Ah ah !» qu'il lança en se sentant partir, et levai les yeux en même temps pour le voir tomber comme une masse. Oh, mon pauvre père était blême quand nous nous serrâmes la main à Gravesend. « Tu te sens d'aplomb ?» me demanda-t-il en me regardant fixement. « Oui, papa. Bien vrai ?»« Oui, papa. Eh bien alors, au revoir, mon garçon. » Il m'a avoué plus tard que sur un mot de moi, il m'aurait sans hésitation aucune ramené à la maison. « Je suis le Benjamin, vous savez, » ajouta l'étranger, en se lissant la moustache avec un sourire ingénu. J'accueillis d'un murmure de sympathie cette intéressante nouvelle. Il fit un geste négligent. Il y avait de quoi ôter à jamais à un gosse tout courage pour monter dans la mâture, à jamais. Il était tombé à 2 pas de moi et s'était fracassé la tête sur une bitte d'amarrage. Il ne fit pas un mouvement, mort sur le coup. C'était un gentil garçon et je m'étais promis que nous serions bons copains. Mais ce n'était pas encore le pis de ce qu'elle pouvait faire, cette brute. Je restai 3 ans à son bord, après quoi je passai pour 1 an sur la Lucy Apps. L'ancien voilier de la famille Apps vint bientôt m'y rejoindre, et je me souviens de lui avoir entendu dire un soir, après une semaine de navigation, « Quel gentil bateau, hein ?» Rien d'étonnant à ce qu'il tint la Lucy Apps pour un petit bâtiment adorable et docile au sortir de cette grosse brute sauvage et excitée. C'était le ciel de naviguer dessus, et les officiers me semblaient les hommes les plus heureux du monde. À moi qui n'avais connu encore que la famille Apps, la Lucy Apps faisait l'effet d'un navire enchanté qui obéissait de lui-même aux moindres ordres. Un soir, nous nous fîmes assez proprement masqués, droit de l'avant. 10 minutes après, nous portions plein de nouveau, écoutes bordées, amures basses, les ponts nets, et l'officier de quart tranquillement endossé à la rambarde. Cela m'a paru comme un vrai prodige. L'autre serait resté empêtré pendant une demi-heure, roulant ses ponts pleins d'eau, culbutant l'équipage, craquant ses espars, brisant les manœuvres, appliquant les vergues, semant à l'arrière une affreuse panique, parce que le gouvernail avait une façon de fouetter la mer qui faisait dresser les cheveux sur la tête. Il me fallut plusieurs jours pour me remettre de ma surprise. Eh bien, j'achevais ma dernière année de noviciat sur ce bon petit bâtiment, qui n'était pas si petit d'ailleurs, mais qui, après l'autre grosse diablesse, paraissait un joujou à manier. Je finis mon temps et décrochai mon brevet. Puis, au moment même où je me réjouissais de 3 bonnes semaines à passer à terre, je reçus à déjeuner une lettre me demandant quand je pourrais être prêt au plus tôt pour embarquer sur la famille Apps en qualité de troisième officier. Je repoussai si vivement mon assiette que je l'envoyai au milieu de la table. Mon père jeta les yeux par-dessus son journal, ma mère leva les mains d'étonnement. Moi, je sortis tête nue dans notre petit bout de jardin que j'arpentais pendant une grande heure. Quand je rentrai, ma mère avait quitté la salle à manger et mon père était installé dans son grand fauteuil. La lettre s'étalait sur la cheminée. « Une pareille proposition est toute à ton honneur, et ces messieurs sont bien aimables de t'offrir ce poste, » dit-il. « Et tu vois que Charles va faire aussi le voyage sur ce bateau-là, comme premier lieutenant. » Il y avait au verso de la lettre un post-scriptum de la main même de M. Apps que je n'avais pas aperçu. Charles, c'était mon grand frère. « Je n'aime pas beaucoup avoir mes deux fils à la fois sur le même bateau, » reprit mon père, de son ton solennel et décidé. « Et je t'assure que je n'hésiterai pas à écrire à M. Apps dans ce sens. » Mon vieux papa, quel brave père! Mais qu'aurais-je pu faire? La seule perspective de remettre les pieds sur cette brute, et comme officier encore, de me faire tarabuster, éreinter, et de passer nuits et jours sur le qui-vive, suffisait à me rendre malade. Mais ce n'était pas un de ces navires dont on ose faire fi, et l'on aurait pu invoquer la plus valable des excuses sans offenser mortellement messieurs Apps et fils. La maison et toute la famille, je crois, jusqu'aux tantes, vieilles filles du Lancashire, souffraient d'une susceptibilité terrible pour tout ce qui touchait à ce maudit navire. C'était un de ces cas où il faut répondre présent jusque sur son lit de mort, si l'on ne veut pas mourir en disgrâce. Et c'est précisément ce que j'ai répondu, par dépêche, pour en finir plus vite.